Ce nouvel espace de débat, sauvage, incontrôlable, violent parfois, comme devrait l'être la démocratie, n'en finit plus de concentrer les attaques de tous les réactionnaires. Moi, quand j'entends des critiques des réseaux sociaux, j'arrive pas à entendre autre chose qu'une critique de la démocratie elle-même. Ils sont violents ? La démocratie, c'est la confrontation. Tout le monde peut y dire tout et n'importe quoi, mais la loi fixe un cadre à l'intérieur duquel, en effet, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. C'est le tribunal populaire. Les bourgeois, d'habitude, ils ont pas de problème avec le tribunal. Donc là, du coup, le problème, c'est quoi ? C'est populaire ? En général, ce mépris face aux réseaux sociaux, il s'accompagne d'un mépris de l'électorat populaire tout entier, hein, qui vote mal, il vote Trump, il vote Brexit, ou même Mélenchon.
On ouvre les guillemets avec cet extrait d'une vidéo du blogueur, chroniqueur, vidéaste Usul, vidéo et blog hébergé par Mediapart. Une réflexion aujourd'hui sur l'état du débat d'idées en deux volets. Demain, où sont les nouveaux clivages ? Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont-ils tué le débat ? Grand déballage, règlement de compte ou invective entre personnalités qualifiées ou anonymes ? Les réseaux sont-ils encore un espace d'information et de discussion citoyen ? En assistant à certains échanges sur Twitter, notamment, on se dit que celui qui choisit d'y polémiquer est soit un peu maso, soit franchement désœuvré, soit les deux. Invité aujourd'hui pour en parler, l'historienne Laurence Decocq, co-auteur de Les Éditocrates, tome 2, Le cauchemar continue, paru à la Découverte au printemps, qui pointe un conformisme imposé à la verticale et un débat réduit à l'état de bavardage à cause d'une poignée de commentateurs professionnels qui monopolisent parole et espace du débat public. À ses côtés, la philosophe Marilyn Maizo, auteure des Conspirateurs du silence aux éditions de l'Observatoire, qui revient sur ce jeu du silence auquel se prêtent médias et réseaux sociaux, un univers où les procès d'intention auraient pris le pas sur la conversation. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous. À mes côtés, Antoine Mercier, pour conduire cette discussion. Vos deux maîtres à penser, Marilyn Maizo, Camus et Socrate, est-ce qu'ils auraient pu avoir un compte Twitter, un profil ?
Socrate, je n'en doute pas, parce qu'il était endurant de ce point de vue-là. Camus, je ne le verrais vraiment pas sur Twitter, en fait, paradoxalement. Camus, c'est quelqu'un qui a été confronté à un certain nombre de polémiques dans sa vie, notamment autour de ses œuvres, en particulier L'Homme révolté. Et c'est quelqu'un qui a toujours su s'arrêter au seuil de la polémique à proprement parler. Donc je pense que sur Twitter, il n'aurait pas fait long feu.
Et pourtant, il semble avoir prévu ce qui se jouerait peut-être aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur ces espaces, bien avant tout le monde, bien avant même ceux qui les ont inventés. Vous le citez à nombreuses reprises dans cet ouvrage, Les Conspirateurs du silence. Il n'y a pas de vie sans dialogue. Et sur la plus grande partie du monde, le dialogue est remplacé aujourd'hui par la polémique et l'insulte. Elle tient entre les nations et les individus et au niveau même des disciplines autrefois désintéressées, la place que tenait traditionnellement le dialogue réfléchi. Comment on en est arrivé là pour vous, Marilyn Maizo ?
Très clairement, je ne pense pas que Camus ait prédit Twitter, c'est juste que ce qui se passe sur Twitter se passe ailleurs et se passait déjà à l'époque de Camus. Je pense que Twitter, parmi tous les réseaux sociaux, favorise les comportements que Camus décrivait déjà à son époque, mais il ne les invente pas. Comment on en est arrivé là ? Je pense que la lecture de Camus, justement, c'est pour ça que je le cite beaucoup, peut nous aider à le comprendre. On en est arrivé là. Je pense parce que essentiellement on suit une certaine pente, la pente de la facilité. C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de polémiquer que de dialoguer à hauteur d'esprit, que d'accepter la confrontation, que d'accepter le désaccord, que d'accepter de se remettre en question. Il est beaucoup plus facile d'étiqueter l'interlocuteur et donc de pas avoir finalement à vraiment tenir compte de ce qu'il dit que de se confronter à ses arguments. Donc si on en arrivait là, j'ai envie de dire, c'est parce que finalement, c'est pour ça que j'ai donné ce titre à ce livre, ça arrange bien tout le monde en fait. C'est-à-dire que c'est une facilité qui arrange bien les deux parties en présence.
Est-ce qu'on peut peut-être, pour que les choses soient bien posées dès le départ, que vous nous donniez les signes qui différencient précisément ce que vous appelez un dialogue raisonné, éventuellement contradictoire, et la polémique, parce que parfois c'est pas forcément évident.
C'est important parce qu'on me pose souvent la question et je me rends compte que c'est pas toujours très clair, parce que les gens me disent tout le monde ne peut pas faire dans la conversation de salon, parfois la polémique elle a aussi ses vertus. Faut qu'on s'entende sur les mots en fait. Je donne un sens très précis, camusien en l'occurrence, au mot dialogue et au mot polémique. Le dialogue peut tout à fait être un débat houleux, où le ton monte, où on peut vraiment s'énerver, sans pour autant virer à la polémique, comme une polémique peut très bien être posée, pas forcément avec un ton élevé, malgré tout être une polémique. C'est pas une question de ton ou de violence, en tout cas d'emportement, c'est plus une question d'objectif et de point de vue. La polémique, en fait, c'est le fait de prétendre être en train de débattre, mais le débat est déjà joué d'avance. C'est-à-dire que vous êtes dans une polémique, vous n'êtes pas là pour échanger un point de vue avec la personne en face, vous êtes là pour décider qui est la personne en face selon vous. Est-ce que c'est une séminazie? Est-ce que c'est un islamo-gauchiste? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et en fonction de cette étiquette que vous aurez posée le plus vite possible, automatiquement, tout ce que la personne dira sera interprété à ce filtre, y compris si ça n'a rien à voir avec ce qu'elle
nourrira l'étiquette qu'on lui aura à coller.
Voilà. Moi, je voudrais citer là juste ce que vous disiez dans un tweet, sans doute, que j'ai trouvé ce matin. Si vous m'insultez, je bloque. Si vous venez m'asséner péremptoirement et sur un mode autoritaire qu'en tant que féministe juive, votre ami, quelqu'un que vous respectez ou respectiez, je ne peux pas penser, je ne peux pas dire ou faire ce que je fais ou dis ou pense, je bloque. Et si vous prétendez lire dans mes pensées, je bloque. Et vous terminez par un « got it ». Est-ce que c'est cela? C'est-à-dire que c'est quand on commence à parler de la personne et non plus du sujet, voilà, dont on parle avec la personne.
C'est ça, c'est vraiment une sorte de personnalisation du débat où on prétend lire dans les pensées de l'autre. Alors, ça n'est plus « tu dis ça et voilà ce que j'ai à en dire », mais « tu dis ça parce que tu penses que » ou « tu dis ça parce que ton intention cachée est de ». Et ça, ça n'a strictement aucun intérêt, on ne peut pas débattre dans ces conditions, parce qu'au final, quoi que vous direz, on vous dira qu'en fait, votre intention cachée est tout autre. C'est ce principe d'un procès d'intention, c'est infalsifiable. On ne peut pas démontrer que c'est faux. Donc ça n'a aucun intérêt. Le dialogue, à l'inverse, si vous voulez, c'est la capacité à se focaliser sur les propos. Vous êtes dans un échange avec quelqu'un, il n'a pas les mêmes arguments que vous, vous écoutez ses arguments et vous l'attaquez à hauteur d'argument. Vous n'allez pas chercher sa profession, son passé, les idées que vous lui prêtez en fonction de sa classe sociale ou autre. Voilà. La différence, en gros, c'est ça.
En fait, forte de ces influences de Camus, de Socrate, vous avez ouvert votre compte Twitter avec l'envie de mettre un pied un peu dans cette grande agora virtuelle, racontez-vous, où vous pourriez échanger. Vous êtes rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ça en avait l'air. En tout cas, cette discussion, ce débat sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter avait des règles. Il vous arrive donc de bloquer et vous l'explicitez dans un autre tweet en estimant que parfois ce réseau use à force de devoir répondre à ce que vous appelez parfois des coups bas. On finit par être submergé par le nombre d'interpellations et de devoir bloquer. Laurence de Kock, est-ce que vous débattez ou vous avez le sentiment de pouvoir discuter sur les réseaux sociaux? Parce que vous êtes historienne, on va y revenir, mais vous êtes aussi une personnalité engagée sur un certain nombre de sujets. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir aujourd'hui converser, porter vos points de vue sur les réseaux sociaux?
Alors, moi, je voudrais préciser, contrairement à Maïline, que je suis vraiment arrivée aux réseaux sociaux extrêmement tard. Je n'ai fait pas du tout la culture des réseaux sociaux et j'ai été presque piégée, happée par ces espaces que je ne connaissais pas du tout et que j'ai dû apprendre à domestiquer sans vraiment en comprendre les règles du tout. Il faut savoir que moi, je fais partie des gens qui, quand il y avait eu la première campagne électorale d'Obama et qu'on m'avait expliqué que tout s'était joué sur Twitter, je ne savais même pas de quoi on me parlait. Hein. Donc j'étais très très loin de ça. Et donc j'ai ouvert des comptes sur Facebook et sur Twitter essentiellement en fait pour rendre public des productions d'un collectif que je venais de créer. D'ailleurs au départ, c'était même pas à mon nom, c'était au nom du collectif. J'explique ça, c'est important parce que c'était au nom du collectif, et puis un jour quelqu'un m'a dit mais tu sais, t'arrêtes pas de répondre en ton nom en fait, parce que j'étais interpellée, moi je trouvais ça sympa, donc je répondais oui oui non, je ne suis pas d'accord, gnagnagna. Puis au bout d'un moment les gens m'ont dit, tu sais là c'est Laurence de Kock qui parle, c'est pas le collectif. Ah, je me suis dit mince, c'est vrai, donc j'ai changé le nom, donc du coup j'ai appelé ça Laurence de Kock. Puis j'ai commencé à répondre aux gens, effectivement, qu'ils soient anonymes ou pas anonymes, et puis à un moment donné je me suis rendu compte que c'était, alors là-dessus on va sans doute en débattre, mais que j'étais absolument incapable de débattre sur ce réseau social, de débattre au sens du débat, hein, tel que vous le définissez dans votre ouvrage. Alors, je suis encore en train de tâtonner. Effectivement, je pose pas du tout de regard savant ou expert là-dessus. C'est pas du tout mon domaine. Je l'observe. J'ai pas eu le courage que vous avez eu, c'est-à-dire de vous mettre en situation d'observation participante, d'objectiver ce qui se passe et puis d'en faire vraiment un objet de réflexion. Moi, j'ai pas eu ce courage-là. Alors, du coup, ça donne des trucs où je bloque, je débloque, je rebloque, je ferme mon compte, je vais le réouvrir, etc. Non, mais il faut dire les choses, hein. Là, je pose vraiment le regard de l'usagère basique. Donc non, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de débattre sur Twitter. En revanche, je trouve que c'est un endroit intéressant Pour plein de raisons. Intéressant parce que, bon, d'abord, effectivement, c'est un, comment dire, c'est un lieu de publicisation qui est absolument gigantesque, surtout quand, voilà, on fait partie des gens qui ont, je sais pas combien de milliers d'abonnés. Alors ça aussi, c'est des trucs qu'il faut dire, mais comme j'ai un problème avec les chiffres, j'ai mis du temps aussi avant de comprendre que 20 000 abonnés, ça veut dire qu'on peut pas dire n'importe quoi sur Twitter, par exemple. Qu'aujourd'hui, vous avez des tweets qui se retrouvent dans des articles de journalistes. Alors que ça, c'est un truc qui m'a absolument sidéré. Il y a des articles de journalistes qui sont faits uniquement à partir de tweets. Alors moi, j'ai trouvé des gros tweets.
C'est une déclaration publique.
Mais c'est ça. Et ça, avant de comprendre qu'on n'est pas en train juste de jeter une idée formidable qui nous passe par le cerveau ou un mot d'esprit ou machin, il faut du temps. Maintenant, ça y est, je l'ai compris. Mais j'ai fait du coup des gaffes par rapport à ça. Des trucs qui étaient des plaisanteries qui se sont retrouvées dans des articles. Bon. Mais alors, fascinant parce que c'est une sorte de boîte d'amplificateur en fait, hein, de publicisation d'idées. Fascinant aussi parce que je trouve que c'est un lieu de créativité. Et là, tout à l'heure, les tweets que vous avez cités sont des tweets qui ont presque quelque chose de... Enfin, qui ont quelque chose de ludique, qui ont quelque chose de littéraire au sens large du littéraire, c'est-à-dire en étant contraint par le nombre de signes, on se pousse à déclarer quelque chose qui, en soi, suffit. Et c'est un exercice de style, ça. Et ça, je trouve que c'est intéressant et qu'il y a des gens qui savent très très bien le faire et qui sont très doués. Après, moi, contrairement à vous, enfin, ce que vous dites dans votre livre, moi, je ne peux pas débattre avec le concombre masqué, je ne peux pas débattre avec Spider-Man, je peux pas, j'y arrive pas, quoi. Effectivement, je pense que c'est des gens qui arrivent, qui sont là uniquement pour troller, comme on dit, qui est déjà une posture intéressante. Et pour moi, ça, ce n'est pas du tout du débat, je ne peux pas nourrir ça du tout, quoi.
Alors, il s'est dit déjà beaucoup de choses, Marilyn Baezo, juste pour reprendre certains points, et notamment un mot que vous avez évoqué, Laurence Decocq, qui est celui de courage, qui peut peut-être nous amener à un autre mot qui fait le titre de cet ouvrage, Les conspirateurs du silence. C'est un jeu du silence, c'est un jeu aussi où on affirme des positions, on affirme ses forces. Qui sont pour vous aujourd'hui ces conspirateurs du silence qui font de cet espace un espace où la dénonciation est, comme vous le dites, sélective et où la rigueur reste très ajustable?
Justement, je vais vous répondre directement. Il y a un problème dès lors qu'on essaye de les nommer, en fait. C'est une tendance que j'ai repérée. Aujourd'hui, je m'en rends compte parce que c'est un reproche qu'on me fait de plus en plus. Vous allez entendre de plus en plus de personnes qui vont vous dire « Oui, mais vous refusez le débat, vous n'acceptez pas la confrontation, vous n'acceptez pas la contradiction, la critique, etc. » Des personnes que j'ai bloquées, en l'occurrence. Systématiquement, quand quelqu'un dit ça, je ressors le tweet pour lequel je l'ai bloqué, on s'est rendu compte que j'ai été insultée, ou il s'est attaqué à mon métier, ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que quand des gens m'envoient mon livre à la figure en disant « bah voilà les conspirateurs du silence et vous bloquez tout le monde ». En fait, les conspirateurs du silence, c'est pas un groupe de personnes ou c'est pas des individus en particulier, c'est tout le monde. J'insiste beaucoup dans le livre sur l'origine camusienne de cette image et notamment son origine dans La Peste, le roman La Peste. Je crois que c'est la citation que je mets en exergue du chapitre 1, il me semble, où Tarou dit « Tout le monde la porte en soi, la peste, car personne au monde n'en est indemne, et qu'il faut se faire violence, en gros, pour ne pas la respirer dans une minute d'inattention dans la figure de l'autre. » En fait, Twitter, de ce point de vue-là, fait que tous, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, à des degrés divers, nous pouvons devenir un conspirateur du silence. Avec les techniques de polémique que je décris dans le livre, il y a des personnes qui en sont des professionnels, qui ne sont là que pour ça. Souvent, c'est ce qu'on appelle les trolls, comme vous l'avez dit. Mais parfois, soi-même, si vous voulez, quand vous êtes pris dans une polémique, que vous recevez 10, 20, 30, 50 notifications de trolls, que vous essayez de pas perdre pied et que vous répondez, il peut arriver que vous finissiez par adopter une attitude, si vous voulez, qui fait que vous collez sur le comportement de l'autre. Donc, vous allez vous mettre vous-même à faire des procès d'intention ou parfois attaquer la personne sur son identité ou sur son métier ou quelque chose de personnel. Donc, en fait, plutôt que de demander quels sont les conspirateurs du silence, je pense que la bonne question, en tout cas, ça me regarde, hein, mais la bonne question qu'il faudrait qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment ne pas le devenir ou comment l'être le moins possible, en fait. Ça, c'est une image, d'ailleurs, qui m'est très chère dans La Peste de Camus. Camus emploie l'image des petits pestiférés. Parce que souvent, quand on parle de la peste, on pense la peste, c'est-à-dire les bubons, les morts, les rats. Mais on ne fait pas attention à ce motif qui n'est pas autant mis en évidence et qui pour moi est pourtant le plus important, celui des petits pestiférés. Quand Tarou explique par exemple ces gens qui vivent dans une société qui applique la peine de mort et qui trouvent ça normal, ce sont des petits pestiférés. Ben, de la même manière, si on redescend dans l'échelle, si vous voulez, de la gravité de la violence, les personnes qui se plaignent à longueur de journée qu'on ne puisse pas débattre sur Twitter, mais qui passent leur temps à insulter les autres, à les attaquer personnellement... comme ça m'est arrivé récemment avec quelqu'un, vous le bloquez parce que sur un compte il vous a insulté, ben il va venir vous chercher avec 3, 4, 5, 6 comptes différents. Ce genre de comportement font qu'au final, si vous voulez, la conspiration du silence, elle fonctionne essentiellement en raison du nombre de personnes qui la font fonctionner. C'est pas un petit groupe qu'il faudrait éliminer, c'est plus des attitudes et des habitudes qu'il faudrait travailler à l'échelle individuelle, je pense.
Qu'est-ce que ces nouveaux médias ont néanmoins fait pour vous, Laurence Decocq, au débat? Et je sais pas si vous en avez la même définition du coup que celle de Marilyn Maïs, celle qu'elle nous donnait tout à l'heure. Est-ce que ça a vraiment changé la forme du débat et le contenu, les termes du débat, comme on disait?
Alors, je ne sais pas si ça a changé les termes du débat, mais alors, ce que ça fait au débat, comme ça, très rapidement, je pense que ça lui donne une autre temporalité, déjà. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que Twitter, c'est la temporalité de l'urgence. Un débat qui, sur Twitter, peut sembler mais le débat du moment, quoi, le truc où quand on croise quelqu'un qui n'a pas Twitter, on se demande mais s'il est resté coincé dans une grotte pendant 10 ans pour passer à côté de ce débat, et disparaître en 3 jours. Et disparaître, mais exactement aussi rapidement que c'est venu. Donc, ce que ça fait au débat, déjà, c'est que ça lui donne une configuration de spontanéité, d'urgence et de non-inscription dans la temporalité longue. Pas tous, hein, mais un certain nombre. Et notamment, c'est ça moi qui m'intéresse, notamment des débats qui, au moment où ils ont lieu, mais vraiment donnent l'impression d'être absolument le débat du moment, quoi. Est-ce que ça a changé maintenant les termes du débat? Certainement, c'est-à-dire qu'en fait ça supprime les hiérarchies entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et c'est lié aussi à la première partie de ce que je disais d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que c'est toujours très intéressant de discuter avec quelqu'un qui n'est pas sur Twitter, parce que vous allez lui dire oh, « mais tu te rends compte, un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça » et là la personne en face, par exemple les parents, c'est toujours très utile les parents pour ça, la personne en face veut dire « tu sais, je ne sais même pas de quoi tu me parles en fait, je ne sais pas de qui tu parles et je ne sais pas de quoi tu me parles ». Ça remet les choses à leur place et je crois que ce que, enfin en tout cas dans l'état actuel des choses, hein, ce que ça me semble faire au débat, c'est une sorte de nivellement, je dirais pas forcément nivellement par le bas parce que ce serait poser un regard un peu méprisant dessus, mais en tout cas nivellement de l'importance et accélération de la temporalité.
Mais vous y retrouvez la même verticalité que chez vos éditocrates, est-ce que la grande différence, parce qu'on n'a pas non plus encore parlé des formats de ces idées qu'on peut formuler sur Twitter, c'est qu'avant le débat se jouait à la télévision, peut-être, à la radio, mais surtout par voie de presse, par tribune, où vous pouvez développer, avoir ce temps de développer un point de vue, une idée. Aujourd'hui, on est passé, certes, de 140 signes à 280, mais l'idée doit quand même être formulée, raccourcie, réduite en des slogans ou des mots assez forts pour pouvoir porter tout de suite. Est-ce que ça n'a pas aussi changé l'essence même de la discussion, de la qualité de la discussion, Laurence Decocq?
Alors, dans le livre que vous évoquez, qui est un livre collectif, hein, Les Éditocrates, là, je dirais que on en revient presque effectivement à l'ancienne formule du pamphlet, hein, presque. C'est un livre un peu pamphlétaire, hein, c'est un livre un peu, comment dire, aigre-doux, voire souvent plutôt aigre que doux, d'ailleurs, et qui se base sur les écrits des journalistes sur lesquels nous travaillons. On a lu l'exhaustivité de ce qu'ils ont écrit, à la fois comme ouvrage ou comme tribune, comme article, etc. Mais quasiment pas sur ce qu'ils publient sur Twitter, hein. Parce qu'en effet, vous avez raison, hein, ce que Twitter fait à ce type d'argumentaire, c'est qu'il cherche à le condenser et que ça produit même parfois d'ailleurs des contresens importants. Il y a un exemple très récent, hier, un tweet de Natasha Polony qui semble montrer qu'elle soutient c'est un tweet qui dit en gros, ben voilà, il a failli y avoir des attentats contre les musulmans par l'extrême droite, ça prouve que l'État ne fait pas son travail. Bon, le tweet dit comme ça, effectivement, est un tweet qui est particulièrement problématique. En fait, elle explique qu'elle a fait une émission sur sa télé et que ce qu'elle dit est un peu plus compliqué que ça. Bon, j'ai pas regardé l'émission, mais je veux bien croire ça. C'est-à-dire, je veux bien croire qu'on soit passé d'un endroit où elle développe une idée, avec laquelle on est d'accord ou pas, peu importe, à un tweet qui condense l'idée et qui provoque en effet une incompréhension majeure et dangereuse, là, pour le coup. Donc oui, c'est pour ça aussi que je disais que pour moi, c'est pas forcément un lieu de débat et je préfère en retourner au texte. Mais c'est peut-être générationnel aussi. Hein. Quoique je sais pas, je termine juste là-dessus, mais parce que les très jeunes générations, parce que moi j'ai un fils adolescent par exemple, il va jamais sur Twitter. Ils sont passés à autre chose en fait. Hein. Et voilà, eux, c'est un média qui les intéresse pas, qui est déjà dépassé pour eux. Donc voilà.
Alors peut-être qu'on peut demander à Marilyn Mezeau comment elle voit que la pensée peut malgré tout, et le débat, en tant qu'il est articulé, en tant qu'il peut encore être qualifié de pensée, peut malgré tout s'inscrire dans ces 280 signes. Et est-ce que fatalement la forme que ça prend n'entraîne pas cette dérive de fond que tout le monde dénonce ?
Je pense qu'il faut distinguer déjà ce qu'on peut faire sur Twitter, ce qu'on peut faire avec Twitter en raison de son format et ce qu'on y fait effectivement de manière majoritaire. Ce que vous décrivez, qui est tout à fait exact, c'est ce qu'on y fait, hein, ce qu'on y constate au quotidien, aussi parce que c'est ce qui occupe, je pense, récupère le plus sa parole, en fait. Hein. C'est vrai que quand vous avez ce genre de polémique, il y a parfois des gens qui ont des interventions extrêmement intéressantes, mais vous les entendrez jamais parce qu'elles sont tellement prises sous un ensemble de tweets de trolls, d'attaques personnelles, etc. Ce qui fait qu'au final, on n'a que la dimension négative. En fait, Twitter, on peut débattre dessus. Je parle d'expérience parce que je l'ai fait. J'ai eu des discussions, des débats extrêmement intéressants et tenus, y compris à l'époque où c'était un 140 caractères. C'est vrai qu'un tweet, c'est 140 à l'époque, 280 maintenant, mais on peut les aligner. Vous savez, on parlait de texte. Un texte, littéralement, c'est un fil, en fait. Hein. C'est un ensemble de fils. Ben, sur Twitter, en fait, ce qu'on appelle des threads, fils en anglais. On a un tweet, on l'accroche à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre, comme un collier de perles. Et donc, ça devient un texte. La seule différence, c'est qu'on va le lire à la verticale au lieu de le lire à l'horizontale. Mais sinon, c'est pareil. Donc, quand on veut développer un point de vue sur Twitter, c'est tout à fait possible. Et de fait, ça se fait quand même beaucoup. J'ai vu que vous en faites aussi hein, des threads. Je dénonce, hein, mais
c'est pas de l'interaction. C'est-à-dire qu'on fait avec ma collègue, par exemple Mathilde Arrère, on fait souvent des threads à quatre mains, qui sont des threads où en fait, on c'est plutôt de l'éducation populaire dans notre manière de faire. C'est-à-dire qu'on fait des cours d'histoire, où on fait de la vulgarisation des sciences sociales, etc. Mais on n'entre pas en interaction en fait avec les gens.
C'est vrai que vous, c'est pas pour l'interaction, mais je fais la même chose en fait en le déplaçant dans le domaine du débat pour ma part. C'est-à-dire que parfois, je vais faire une réponse, et ben je vais la faire sur 10 tweets au lieu d'un. Comme ça, elle sera développée. Puis après, on peut lancer une discussion. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a quand même moyen, quand on aura vraiment envie de débattre sur un sujet de fond, sur Twitter, de le faire. Le problème, c'est que souvent, on ne le veut pas. Puisqu'on parlait justement de polémique, c'est ce qui s'est passé donc avec Natacha Polony, d'après ce que vous me décrivez. Mais parfois, il arrive que vous ayez une personne qui est dans une discussion, qui a donc fait un certain nombre de tweets, et vous allez avoir quelqu'un qui va en retweeter un. Mmh. Mais ce tweet, quand vous le retweetez, vous savez comment ça se passe, hein, vous le retweetez, ça veut dire qu'il est pris isolément du reste de la conversation et il est mis en évidence par 10, 20, 30, 50, 100 000 personnes qui vont le retweeter. Vous l'isolez de la conversation, il n'a plus du tout le même sens. Et du coup, on va pouvoir attribuer à la personne, parfois même le contrat de ce qu'elle voulait dire. Et c'est comme ça que se lance la polémique. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on ne peut pas débattre sur Twitter, parce qu'on n'y peut rien, 280 caractères, ça laisse la place à l'ambiguïté, c'est comme ça. J'essaye, pour ma part, de lutter un petit peu contre cette dimension parfois un peu fataliste qu'on peut entendre, parce que, de facto, j'ai expérimenté la possibilité de débattre avec quelqu'un qui en avait envie. Je dis pas que c'est facile, que c'est évident, et qu'il n'y a pas de quiproquo, même avec les gens de bonne volonté. Je veux dire que bien souvent, je me rends compte qu'il y a une sacrée différence sur Twitter entre les débats que vous avez avec des personnes qui sont vraiment là pour débattre et les débats que vous avez avec des personnes qui sont là pour polémiquer, oui, pour représenter un camp, etc.
On ne peut pas choisir, c'est aussi ça la particularité. On ne peut pas choisir avec qui, ou c'est discutant d'une certaine manière. Je vous propose d'écouter, à propos de violence des échanges en milieu non tempéré, la militante féministe Caroline Dehas. J'ai fermé mon compte Twitter parce que...
J'ai fermé mon compte Twitter parce que je suis victime depuis plusieurs semaines de harcèlement, d'injures à caractère sexiste et homophobe sur les réseaux sociaux. Le déferlement de haine que j'ai subi depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, il trouve son origine dans un article de l'Obs. Je me suis entretenue pendant 45 minutes avec un journaliste à qui j'ai dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup ces dernières semaines. C'est qu'en fait, notre société est en train de prendre conscience de manière massive et avec un peu de douleur que des centaines de milliers de femmes ont été victimes de violences dans notre pays. On estime en France qu'une femme sur deux a déjà subi des violences sexuelles. C'est un fait massif qui nous concerne toutes et tous. Dans votre entourage, il y a des femmes qui ont été victimes de harcèlement, d'agression ou de viol. Ça, on commence à le comprendre. La vague MeToo, qui a été une vague mondiale, nous a permis de prendre conscience de cette réalité. Il y a un truc qu'on n'arrive pas encore à imprimer. C'est que si une femme sur deux dans notre entourage a été victime de violences sexuelles, c'est sans doute que des hommes dans notre entourage ont été des agresseurs sexuels. Est-ce que c'est un homme sur deux? Est-ce que c'est un homme sur trois? Je n'en sais rien. Nous n'avons pas de statistiques pour le dire.
Oui, parce qu'il y avait eu discussion sur les chiffres.
C'est beaucoup. La preuve?
Voilà, c'est beaucoup, dit Caroline de Haas. Il y a eu discussion. Elle avait eu donné des chiffres qui étaient peut-être pas totalement justes, maladroits, mais pour elle, l'idée était quand même la bonne. Et elle a eu énormément, énormément de réactions, parfois violentes, qui lui ont fait donc décider de fermer son compte à ce moment-là. On peut peut-être rouvrir un peu la discussion aussi et se demander si, comme le sociologue Gérard Bonner le suppose, on peut aujourd'hui reprendre en main cette discussion sur les réseaux sociaux, dans ces grands médias. Est-ce qu'il y a un travail citoyen à faire là-dessus qui permettrait de rendre réellement démocratique la discussion sur ces réseaux sociaux avant de les condamner définitivement? Marine Maizeau.
Alors, est-ce que ça serait souhaitable? À l'évidence, est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas trop, je me demande sous quel format ça pourrait se faire. Est-ce qu'on pourrait le faire sur les réseaux sociaux directement? J'en doute, parce que pour pouvoir faire un travail de ce type qui sera un travail dépassionné, un travail de réflexion, il faudrait prendre du recul. Je ne pense pas qu'on puisse faire à l'heure actuelle, dans l'état actuel de Twitter, ce genre de travail. Moi, si j'écris un livre, ce n'est pas pour rien. C'est pour pouvoir prendre du recul par rapport à ce que j'avais vécu et le coucher sur le papier. Quand vous êtes pris dans les fils du réseau qui est Twitter, je ne pense pas qu'il y ait vraiment la place pour ce travail de réflexion. Par contre, je me dis que si on fait un travail, disons, plus sur la sensibilisation, par exemple, au cyberharcèlement, notamment, on parle de Caroline de Haas, au cyberharcèlement spécifiquement tourné vers les femmes. Je ne dis pas que les hommes n'en sont pas victimes, je veux dire que les femmes qui en sont victimes et qui en sont victimes plus massivement subissent un cyberharcèlement d'un type très particulier. Très souvent, on se rend compte que les insultes, les agressions, elles sont toujours de type sexuel, par exemple, qu'on ne va pas forcément trouver avec un homme. Je pense que si on faisait ce travail de prévention, par exemple, dans les classes peut-être, ou en tout cas auprès de la jeunesse en dehors des réseaux, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait avoir ensuite une évolution sur les réseaux sociaux, parce qu'au final, les réseaux sociaux sont le miroir de la société. Si les gens s'y comportent comme ça sur les réseaux, c'est parce qu'en dehors...
Et de la démocratie, c'est ce que soulignait Usul qu'on entendait en ouverture de l'émission, qui dit que moi, quand j'entends une critique des réseaux sociaux, je n'arrive pas à entendre autre chose qu'une critique de la démocratie elle-même. Les réseaux sociaux sont violents, la démocratie, c'est la confrontation. Tout le monde peut y dire tout et n'importe quoi, mais la loi fixe un cadre à l'intérieur duquel, en effet, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Laurence de Kock.
Oui, alors moi j'aime beaucoup Usul, mais je suis pas tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Je suis assez optimiste en fait. Tout à l'heure je parlais des prochaines générations. Moi j'ai le sentiment que en réalité, progressivement on va se désintéresser des gens qui font n'importe quoi sur Twitter et que cet outil va devenir ce qu'il est censé être, ce pourquoi il est d'ailleurs assez merveilleux, c'est-à-dire un espace d'éducation populaire. Moi j'insiste beaucoup là-dessus. Je trouve que c'est particulièrement fécond. Et ce que fait Mathilde Larrère là-dessus ou d'autres, d'ailleurs vous les citez, Mélusine, c'est vraiment des comptes qui sont particulièrement passionnants, on apprend plein de choses et on s'adresse à des milliers de personnes, donc c'est des outils vraiment pour le coup très féconds. Un lieu drôle quand même, parce que il faut aussi garder ça en tête, c'est un lieu qui est plein d'humour, c'est vraiment un espace où il peut y avoir de la convivialité. Et moi je trouve qu'au bout d'un moment, cette agressivité qui mène, en effet, hein, Caroline de Haas a raison, et puis c'est pas la seule, il y a Nadia Dam, moi aussi, hein, j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu des menaces d'agression sexuelle, hein, au moment, c'est pour ça aussi que j'ai désactivé régulièrement mes comptes. Je pense que ça, au bout d'un moment, ça va se, enfin j'espère en tout cas, ça va s'assécher. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va devenir un lieu de débat? Bah, très honnêtement, là-dessus, je crois pas, et je pense pas que ce soit forcément très souhaitable. Vous l'avez dit fort justement tout à l'heure, moi ce qui fait pour moi la particularité d'un débat quand même, c'est qu'à minima, on choisit les gens avec qui on souhaite débattre. Et ça, c'est quand même une grosse différence avec Twitter, où on a des gens qui s'abonnent à nous et puis qui tout à coup nous tombent dessus, on sait même pas qui c'est, on sait même pas comment ils s'appellent, on sait même pas d'où ils viennent, etc. Moi, je crois pas que ça se soit très intéressant. Le débat, c'est quand on sait à minima qu'on est d'accord sur ce sujet. Sur quoi on souhaite débattre. Et sur Twitter, on n'a même pas ça. Donc je ne pense pas que ça devienne un jour.
Antoine Mercier.
Peut-être je vais dire une grossièreté, parce que je me interrogeais quand même sur le point de savoir sur le fond du problème, c'est-à-dire à quoi ça peut servir finalement de donner son opinion ou d'entendre l'opinion de quelqu'un à partir du moment où cette personne n'a pas un pouvoir particulier qui ferait que sa parole précisément compte, et que c'est simplement une volonté d'imposer sa parole comme un pouvoir, comme si ça avait une importance que l'opinion qu'on a doit être diffusée, etc. Il y a quelque chose qui me paraît être là une course à l'existence totalement dérisoire, parce qu'effectivement on essaye de se faire remarquer ou d'exister alors qu'il suffirait finalement de ne pas y participer et d'exister par ailleurs sans passer par ce canal.
Alors je crois que c'est justement un petit peu l'idée que développe Usul hein, dans la vidéo que vous avez diffusée sur l'idée que c'est une forme de contre-pouvoir un petit peu Twitter, le peuple qui reprend, qui prend sa revanche sur la monopolisation des médias par les grands en gros.
Enfin, c'est pas ce que je dis. Hein. Je pense que c'est effectivement la.
Mais c'est tout le monde qui
une...
fait.
Oui, non, mais c'est une prise de pouvoir qui me paraît totalement vaine et au contraire.
Bien sûr.
Qui est une sorte d'aliénation.
Lui, il le prend positivement.
Oui,
lui, il le prend positivement.
Non, mais je tenais à le préciser.
Tout à fait. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec lui. Je trouve pas que ce soit quelque chose de positif parce qu'au final, si pour que ce soit vraiment une revanche, en admettant qu'il ait raison, une revanche du peuple sur les élites ou une reprise de la parole populaire. Sur un plan, disons, qui est horizontal, bah, il y aurait quelque chose de fécond derrière, comme vous dites. Ça veut dire qu'on aurait vraiment des débats populaires, les gens pourraient vraiment avoir des discussions. C'est pas vraiment ce qui se passe. Et puis d'ailleurs, comme je l'explique, il me semble, dans le livre, parce que j'en parle de cette vidéo, les dérives dont je parle, elles sont le fait non seulement du peuple, comme il dit, parce qu'on sait pas trop ce qu'il entend par là, et des élites, hein, les procès intentions, les insultes, etc. C'est pas forcément les gens du peuple. C'est pour ça que pour moi, c'est une image assez négative de la démocratie, en fait. Quand il dit la démocratie, c'est la violence, c'est la confrontation. La violence dont on parle sur les réseaux, dire que ça c'est le peuple, je trouve pas que c'est donner une image très positive de la démocratie. Après, sur Twitter, comme je vous dis, il faut pas tout mettre dans le même panier. Il y a des usages, voilà, au pluriel. Il y a des usages de Twitter. Celui que vous avez décrit, ceux en l'occurrence que vous avez décrit, sont des usages absolument fondamentaux. Pour ma part, je pense que le débat est très difficile sur Twitter, mais qu'il est possible et que les expériences que j'en ai eues font que je ne renonce pas totalement. C'est vrai que, si vous voulez, c'est énormément de temps perdu pour une petite pépite de temps en temps.
Laurence de Coq.
Oui, pour vous répondre aussi, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Hein. D'abord, vous avez parlé d'aliénation, il y a de l'addiction aussi. Hein. Donc là aussi, hein, il faut quand même placer des mots sur les choses. C'est aussi une addiction et de ce point de vue-là, je pense que c'est assez toxique. Mais ce que vous dites est intéressant, ça renvoie aussi aux travaux de Yves Citon lorsqu'il a travaillé sur l'économie de l'attention, ce qu'il appelle l'économie de l'attention. C'est vrai que le fait de se dire tout à coup je parle et des milliers de personnes m'entendent, ça confère une valeur aux individus. Et de ce point de vue-là, c'est assez délétère parce qu'on devient aussi d'une certaine manière des éléments de marchandisation, mais d'une marchandisation de l'intellectuel, de l'intellect. Hein. Et en fait, plus on est suivi, plus on a de la valeur. Et on voit bien aussi comment, de ce point de vue-là, on devient aussi des agents d'une forme de capitalisme cognitif. Et tout ça, ça s'interroge aussi. Hein. Ces réseaux sociaux, ça produit ça aussi. Hein. C'est-à-dire que ça met en concurrence des individus du point de vue, justement, du nombre de gens qui sont susceptibles de les écouter.
Voilà, alors un jour, il faudra qu'on rouvre encore ce débat en se demandant si les réseaux sociaux ont tué ou pas l'information. Ça reste aussi, parce que vous avez dit éducation populaire, vous avez dit des lieux où on s'amuse aussi parfois, des lieux où on essaye de discuter, mais c'est aussi des lieux où on peut tenter de s'informer. Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées autour de cette grande table. Laurence de Coq, Les Éditocrates, aux éditions La Découverte, je rappelle le titre de vos derniers bouquins, Marilyn Maezo, Les Conspirateurs du Silence, c'est aux éditions de l'Observatoire. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Claire Maillot et Clémence Marie qui ont programmé et préparé cette émission, avec l'aide précieuse de Maxime Morin et de Henri Leblanc, d'Émile Boutelier et de Liana Valken. À la réalisation aujourd'hui, Perret Le Gras avec Alex Dang. Antoine Mercier, on se dit rendez-vous demain pour une dernière Grande Table de la saison. À demain.